Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs et non pas par des sociétés tierces. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement Soero, Mathieu Balthazar, Guillaume Landry, Damien Gouillette, Mathieu, Fricazoïde, Pralafointe, Jérôme Gascuel, Yann Galis et Arnaud Bernard. Merci à vous tous de soutenir les émissions que vous appréciez. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission hebdomadaire où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Aujourd'hui, on a un programme, on va dire, de retour aux fondamentaux. On va vous parler de Microsoft et d'Apple avec des annonces de produits, de réorganisation, tout ça. On va aussi vous parler de plein d'autres petites choses dans la partie news et rumeurs, comme par exemple le fait que on va avoir des codecs vidéo disponibles gratuitement et de manière hyper pratique. Quelles mesures l'État va prendre dans le domaine de l'IA chez nous en France, et chez nous, chez certains d'entre nous, puisqu'on couvre toute la francophonie, évidemment. Il va y avoir tout plein d'autres sujets, comme le Huawei P20, avec non pas un, non pas deux, mais trois objectifs à l'arrière, qui a été présenté à Paris, Monoprix et Amazon qui forment une alliance improbable, mais peut-être bénéfique. Et donc, on va vous parler de tout ça et de d'autres choses encore. Je commence par me présenter. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné, je disais un retour aux fondamentaux, je suis accompagné de la formidable équipe de Feu Upload qui se réunit aujourd'hui pour vous expliquer tous ces sujets avec évidemment que du sérieux et que de la rigueur. Comment allez-vous, messieurs? Je vous présente de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, je sais pas. Jérôme Kainborg d'abord, qui est présent presque tous les mois avec moi. Comment ça va, Jérôme?
Bah ça va, mais pourquoi tu m'as mis à droite? Après, les gens vont croire qu'on va parler c'est politique.
C'est pour ça que j'ai dit bordel, ou de gauche vers la droite, je sais pas. Donc
l'extrême droite, nous avons Jérôme.
Donc je vais laisser Corben pour la fin. C'est ça qu'on est en train de dire.
Allez, vas-y.
Non, mais les logiciels libres, tout ça, ça on a bien compris.
C'est un truc de gauchiste.
Bon bah justement, puisque bon, donc bonjour
t'es
Jérôme,
pas en grève, merci d'être d'ailleurs, avec nous. Corben, aujourd'hui t'es pas en grève là de l'émission, tu fais piquet de grève en fait.
Non, mais moi je vais vous dire, je suis un peu déconnecté de tout en ce moment, je regarde pas les infos et effectivement, je suis pas du tout ces histoires de grève, donc j'ai appris bon. Ça oui, mais vite fait quoi.
D'accord, bah écoute, ça tombe bien parce que c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, je suis sûr qu'on pourrait en parler longuement, mais comment ça va Corben, t'es en forme ?
Ouais, ça va, bah comme je disais, beaucoup de boulot, donc pareil, tout ce que t'as annoncé comme sujet, je ne suis au courant de rien, donc je vais sûrement faire des blagues et voilà, je suis là en mode touriste, hein, donc ne m'en veuillez pas.
Ça c'est en mode gréviste, oui.
En mode gréviste.
C'est l'avantage d'avoir des gens qui baignent dans l'actualité, ou peut-être pas l'actualité, mais dans l'industrie de toute façon, parce que vous savez de quoi on parle, même quand vous n'avez pas préparé l'émission, donc c'est bon.
Le cheminot du web, c'est parti.
Et enfin, l'autre voix que vous avez entendue, c'est celle de Cédric Bonnet, qui se joint à nous également pour former au complet les trois mousquetaires du,
oui, c'est ça.
Du podcast. Comment ça va, Cédric ?
Bah écoute, ça va. Un peu fatigué, mais ça va.
Oui, t'as une petite voix là. C'est
ouais,
le stream d'annonce d'ouverture d'hier de Studio Renegade qui t'a fatigué.
On va dire que j'ai une journée. Tu vois, je parle, je sais même plus parler. J'ai un week-end très compliqué. J'ai très très peu dormi ce week-end, donc parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et puis voilà.
Bah, écoutez, ça s'annonce comme un podcast plein de succès et d'intelligence,
ah ouais,
je pense.
C'est ça, exactement. Pour notre fatigué en pleine forme.
Première réunion applaudienne dans le rendez-vous tech.
J'aurais pu décommander, mais j'ai dit non, je serai là.
Exactement.
Quoi qu'il m'en coûte.
Et bien, on t'en remercie par avance et on va se lancer donc avec le premier sujet. Comme je le disais, il y a une réorganisation assez importante qui se passe chez Microsoft avec une annonce qui a été faite par son président Satya Nadella il y a quelques jours de ça. Et c'est une réorganisation qui est très symbolique puisque Ils ont réorganisé certains dirigeants de la société et surtout ils ont changé le nom d'un des départements qui était assez symbolique. C'était le département Windows and Devices Group. Alors il y a eu plusieurs réorganisations depuis que Satya Nadella a pris la direction de la société. On va dire que dans l'ensemble, la société est plutôt bien gérée jusqu'à maintenant. Elle a corrigé une pente qui était peut-être un petit peu dangereuse ces dernières années, et ils sont au moins réussi à stabiliser la trajectoire. Et ils avaient donc un groupe qui s'appelait le Windows and Devices Group, donc le groupe Windows et appareils. Et du coup ils l'ont réorganisé en Experiences and Devices. Et Experiences and Devices, ça inclut Windows, bien sûr, mais aussi Office et Surface. Et en plus de ça, il y a la personne qui gérait ce groupe anciennement, qui s'appelle Terry Myerson, qui était un vétéran de la société et qui était le chef de Windows, en gros, qui a quitté la société ou qui quitte la société. Ils ont promu d'autres personnes dont on connaît un petit peu les noms. Il y a Joe Belfior, il y a Panos Panay, etc., qui montent un petit peu en grade. C'est presque un changement de génération. J'exagère un petit peu, mais presque. Et surtout, ce recentrage, on va dire, qui semble dire que Windows n'est plus... Bien sûr, Windows reste hyper important pour la société, mais on a l'impression que... Ils disent que Windows n'est plus l'avenir de la société. C'est un petit
c'est
peu
plus le fer de lance.
De cette manière, oui, que je l'interprète. Et du coup, bon, il y a encore beaucoup de choses à dire et on va en parler. Mais première analyse à chaud comme ça, parce que bien sûr, Microsoft et Windows, c'est toute l'histoire de l'informatique qui repose jusqu'à il y a quelques années sur Windows et Microsoft. C'est quand même monumental le fait de se dire qu'ils commencent à ne plus penser que Windows est leur avenir. En tout cas, c'est mon analyse. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric, hein, toi qui connais bien la boîte aussi? Pardon, ouais, Corben, en fait... tu voulais dire un truc avant, j'ai vu que tu...
Non, mais moi, c'était rien. Je pensais que c'était juste un changement de marketing, quoi.
Non.
C'est Cédric qui répond.
Non, c'est pas qu'un changement de marketing. En fait, l'impression qu'on a plutôt, c'est de se dire... et on l'avait vu déjà, rappelez-vous, avec le lancement de Windows 10 en disant, ben, c'est gratuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez c'est gratuit ou c'est pas cher en tout cas, contrairement à ce que ça coûtait avant.
Et on se disait, surtout ce sera le dernier.
Le dernier, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouvait à une stratégie, j'allais dire à la macOS, où on a un OS 10 qu'on traîne depuis des années et des années, qui est mis à jour avec plus ou moins de nouvelles fonctionnalités. Et en fait, on se rend compte que Windows 10, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a eu la fall update, on a eu la creative update et tout ça, mais qui rajoute quelques creators fonctionnalités, update, mais qui sont pas, voilà, creators update, qui en fait rajoute quelques fonctionnalités, mais qui ne révolutionne pas l'OS comme on avait l'habitude de le voir avec Windows quand on changeait de version. Quand on était passé de Vista à 7, de 7 à 8, de 8 à 10. Il y avait des vrais changements, pas que cosmétiques d'ailleurs, mais il y avait des vrais changements.
Et c'est hyper important ce que tu dis par rapport au prix, parce que Windows représentait une partie énorme des revenus de Microsoft.
Exactement.
Parce qu'à chaque fois, ils vendaient cette version, les mises à jour. Alors, à différents prix, il y avait des prix OEM, machin, ils restaient présents partout. Mais effectivement, c'était déjà un départ.
On est passé de la vente boîte à la vente de services. Mmh. Et c'est vraiment ça. Et on le voit avec Office. Moi, aujourd'hui, j'ai Office. Ça m'est arrivé d'acheter...
365, j'imagine ?
365, évidemment. Ouais. Enfin, je paye un abonnement comme je paierais une Dropbox ou comme je paierais mon abonnement à Apple Music, quoi. Et ça ne me choque pas. Et pour moi, je trouve ce modèle plutôt intéressant, plutôt que de me payer la suite Office. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque ce que ça coûtait.
très cher.
Peu d'entre nous l'achetaient, mais beaucoup l'utilisaient, si vous voyez ce que je veux dire.
On était jeunes à l'époque, des erreurs de jeunesse
voilà.
que vous avez sans doute fait, moi certainement pas. Mais voilà. T'as raison, c'est exactement la direction dans laquelle a pris la société Satya Nadella. Et lui, il venait de l'univers du cloud, et clairement, il est orienté software as a service, cloud, etc. Ben voilà. Et du coup, c'est aussi ce qu'il faut mentionner, c'est le fait que, alors, on a, du côté de Microsoft, on avait eu une prédiction un petit peu ambitieuse que Windows serait sur 1 milliard d'appareils d'ici, je sais plus, ils avaient dit au bout de 3 ans. Évidemment, ils comptaient sur le fait qu'ils aient un développement conséquent de Windows Mobile. On sait tous que ça ne s'est pas passé comme ils l'espéraient. Windows Mobile a dû être enterré et complètement enterré désormais. Android a 2 milliards d'appareils actifs tous les mois. Apple a 1 milliard d'appareils actifs. Pour Windows, si on compte tous les Windows, c'est-à-dire les consoles également, et même bon, les HoloLens, il n'y en a pas beaucoup, mais les Xbox One, il y en a un certain nombre, ça fait 600 millions d'appareils. Donc, bon, 600 millions, évidemment, c'est pas rien. Hein, soyons clairs, c'est pas du tout quelque chose de ridicule. Mais Windows 10, il est sur 600 millions d'appareils. Il y en a beaucoup qui sont sur d'autres versions de Windows également. Donc, on est peut-être au-dessus d'un milliard d'appareils qui font tourner Windows dans le monde. Mais bon, clairement, on n'est pas du tout dans la même dynamique que pour les appareils mobiles, et c'est là que Microsoft a des soucis, et sous la direction de Nadella, ils se sont dit, on s'oriente vers les services, on a Office 365, le cloud, les services en B2B, etc. Et là, mais du coup, pour revenir à cette annonce, l'abandon de Windows en permanence, c'est pas tout à fait ça, et même c'est pas du tout ça, c'est pas qu'ils abandonnent, mais le fait de se dire bah Windows c'est pas notre avenir, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de la boîte? Est-ce qu'ils vont faire à terme un petit peu comme IBM, qui avait abandonné le marché des PC et qui est maintenant une société qui a beaucoup de succès dans la gestion et la vente de solutions pour les sociétés? Est-ce que du coup Windows va s'effacer un petit peu, ou Microsoft va s'effacer un petit peu au profit de services moins visibles pour le grand public? Enfin, ils ont toujours un OS, mais je sais pas.
En fait, l'OS, c'est comme pour macOS finalement. C'est-à-dire que l'OS, c'est la base pour faire tourner les services dessus. Et quand tu regardes un peu ce qu'a fait Microsoft, et la stratégie est bonne, c'est qu'ils se sont dit, on va pas cantonner nos services à uniquement notre plateforme Microsoft. Et donc, on retrouve Office sur iPad, sur macOS, enfin, un peu partout, quoi. Donc, clairement, on sent bien que, je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à abandonner, comme tu disais, Windows.
Oui, je mets un peu d'en face. Clairement, Windows est essentiel.
Et je pense pas qu'il fasse un virage non plus comme IBM, 100% B2B. Je les vois pas faire ça. Je vois pas faire ça parce que le marché grand public, ils ont quand même leur place, ne serait-ce qu'avec Office 365, avec les services Xbox, avec ce genre de choses. C'est vrai qu'ils ont connu un autre revers, et on en a pas parlé, mais c'est la musique, hein, puisqu'ils ont fermé aussi leur service de musique au profit de Spotify. D'ailleurs, ils ont livré les connecteurs pour transférer ces morceaux et ces playlists vers Spotify. Je leur souhaite de réussir à proposer un service grand public en plus du Xbox Live, parce que je trouve que ça reste un peu léger. Mais se dire qu'ils vont faire un virage B2B à 100% et que du coup demain le particulier fera plus tourner son ordinateur sous Windows 10, j'y crois pas trop encore.
Non, donc, c'est sûr, je grossis un peu le trait, c'est certain, mais je pense qu'il y a quelque chose, peut-être que je vais me tourner vers Jérôme ou Corben si vous voulez, mais il y a quelque chose de symbolique dans le fait d'avoir un OS, et même plus que symbolique. Google, par exemple, qui a souhaité avoir Android, c'était pas juste pour le plaisir de faire des OS pour téléphone, c'est parce que quand tu contrôles l'OS, tu contrôles la base de l'expérience informatique. Pareil avec Chrome. Chrome, c'est leur porte d'entrée vers tous les autres OS, et c'est Google qui contrôle le navigateur, qui représente une énorme partie de l'activité informatique qu'on a sur un ordinateur. Et c'est pour ça que ces plateformes sont hyper importantes. Donc le fait que Microsoft se détourne un tant soit peu de Windows, même s'il reste très important, je trouve ça symboliquement et dans les faits, je sais pas, c'est plus monumental que si...
Honnêtement, je pense pas qu'ils s'en détournent, je pense surtout qu'ils vont... Mais ils avaient dit que ça serait
ils
la dernière version.
Aussi, ouais.
Voilà, c'est qu'en fait, ils vont se concentrer sur autre chose et ils vont faire de l'incrémental maintenant pour les mises à jour. Jusqu'à ce qu'un jour, on arrive à une usine à gaz et on se dise, allez, on recommence tout à zéro comme on fait avec les précédents, tu vois. Mais là, il est construit sur de bonnes bases, l'OS fonctionne très bien, mais ils ont raison de faire ça. Enfin, je veux dire, Apple le fait et c'est la bonne stratégie, je trouve. Ça leur permet de limiter aussi les coûts et donc de proposer un OS pas cher et de le retrouver installé partout. Ils vont garder le lead sur l'informatique grâce à ça. Enfin, si demain l'OS devenait ultra cher et ultra payant, quand on voit, même si la progression est anecdotique encore de Linux et de ses distributions, ça ne sera pas les ordinateurs grand public de demain, mais pourquoi pas.
Il y a des alternatives, quoi.
Microsoft s'est dit, on a quand, enfin, il faut qu'on fasse quand même attention à ce qui se passe, parce qu'on se fait doubler sur les services. Si notre OS continue à être...
Oui, mais tout ce, que, tout ce dont tu parles là, excuse-moi, je t'interromps Cédric, mais tout ce dont tu parles, c'est des orientations qu'ils avaient déjà prises il y a quelques années. Là, le fait de se dire...
l'optimisme, c'est tout, mais ouais, honnêtement... Ouais.
Donc tu crois qu'il n'y a pas de grand changement dans la pratique, quoi.
Non. Non, simplement là, en fait, si tu veux, c'est un peu le principe de si Satya avait débarqué en disant, ben voilà, maintenant, on découpe le groupe, voilà comment ça va se passer, ça aurait été la grosse levée de bouclier, les grosses inquiétudes et tout ça. Et il a utilisé une autre stratégie qui était plutôt de dire, on va le faire.
Tu veux dire quand il a repris la direction de la société il y a quelques années ?
C'est ça. En gros, ce qu'il a dit, c'est, voilà l'orientation, on va le faire. Et un jour, on changera le nom. Et ils ont changé le nom maintenant. Et simplement, ce que ça permet de faire, c'est que ben, ce changement de nom, nous, tu vois, on le commente, mais finalement, on minimise en disant, mais ils le font déjà, en fait. Ça se paraît juste logique qu'ils aient renommé. C'est en gros une façon de faire, c'est plutôt que de dire, j'arrive, je pète tout. Maintenant, le Windows and Devices Group, ça devient Experience and Devices. On s'oriente vers le cloud, machin. Je pense que, honnêtement, ça aurait affolé tout le monde, y compris les investisseurs, tout ce que tu veux.
Ouais, les actionnaires.
Et là, le fait de se dire, ouais, les actionnaires et tout ça, et le fait de se dire, bah non, on va prendre cette stratégie, on l'a fait brique par brique. Et quand on est arrivé suffisamment loin, ben en gros, on acte la stratégie des années précédentes qui a fonctionné et qui a porté ses fruits puisqu'on n'est plus sur la pente descendante. Donc maintenant, on acte le truc et voilà notre mantra et notre mojo. Voilà.
Jérôme,
avis je pense que le nouveau nom veut bien dire quelque chose, Experience and Devices. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive effectivement dans un monde où l'informatique n'est plus du tout l'informatique. Il y aura toujours des power users qui se préoccuperont quels seront leurs OS, machin et tout ça. Mais pour la majorité des gens, et Apple l'a montré quelque part, et ce qu'ils font autour de l'iPad le montre aussi, la fusion hardware-software, pour nous, elle est importante, la séparation. Mais... pour l'utilisateur, c'est l'expérience utilisateur qui prime avant tout. Il s'en fout sur quoi ça tourne. C'est on bascule dans un monde expérientiel, surtout.
Ouais, donc le terme expérience est important
les
pour ça aussi.
En plus, les puissances hardware vont être de plus en plus déportées. On arrive dans le monde promis il y a 20 ans de client-serveur et les gens vont s'abonner à des services et avoir des besoins ponctuels. Mais on appellera, enfin, dans leur tête, ça sera même plus de l'informatique. Donc, je pense que Windows prend ce virage-là. Faut pas négliger au niveau hardware ce qu'ils font autour de leur gamme Surface. Là, moi, j'ai plein d'objets Surface autour de moi parce que je suis en train de les tester, la Surface Book, etc. C'est intéressant ce qu'ils font au niveau hardware. Là aussi, ils ont pris des enseignements d'Apple, produits à forte marge, à forte valeur ajoutée, pour driver un marché, on va dire, medium cost et low cost sur lequel ils veulent plus s'aligner. Et je pense que la marque Surface, on risque d'en entendre parler. S'ils reviennent dans la mobilité, ça sera probablement par la marque Surface. D'où la partie, je dirais, device. Mais on ne parle plus de hardware, quoi. C'est des devices. Ils vont venir avec des produits intelligents.
Oui, mais quand tu vois que c'est Panos Panay qui reprend, qui devient le CPO, donc Chief Product Officer, c'est lui hein, qui est derrière la gamme Surface. Hein, donc, tu sens bien que bah, maintenant, lui, il prend carrément la direction de tous les produits qui vont sortir de chez MS. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les prochaines souris, le prochain clavier qu'ils produiront, ça sortira sous les gars qui bossent pour lui. Donc,
Ils y vont assez fort. Moi, j'étais chez Microsoft France là, il y a 2-3 semaines, justement, pour la présentation. Je crois même pas qu'on a évoqué le mot Windows. C'est intéressant.
D'après ce que vous me dites là, moi en fait ce que je vois c'est effectivement un effacement du mot Windows, parce que c'est quand même très connoté PC et parfois même mal connoté en termes de problème. Ça se traîne, même si l'OS maintenant est très bien.
Virus de machin.
Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est pas con pour Microsoft de mettre toute sa gamme de faire rentrer Windows dans le rang de tout le reste, hein, d'Office, de Surface, de tout ce que vous voulez, et finalement d'effacer la marque marque pardon Windows au profit de la marque Microsoft, qui est quand même plus prestigieuse et beaucoup plus sympathique en termes de enfin de réputation quoi. On a en fait il y a une espèce de différence entre Microsoft fait des bons produits, fait des bons outils, et Windows ça pue, enfin Windows ça plante, Windows machin, donc moi je trouve ça malin c'est d'effacer un peu
Windows. Ouais, tu vois, le prochain écran de boot de Windows, ça sera le logo Microsoft avec écrit Microsoft, ou même pas juste le logo Microsoft hein.
Peut-être
dans l'absolu, honnêtement, plus de 80% des gens qui utilisent de l'informatique, ils en ont rien à foutre de leur OS.
C'est ça, ouais.
Demandez à des gens, on va dire, normaux autour de vous, t'as quel OS, t'as quelle version, ils en ont rien à foutre.
C'est sûr que les gens savent... Les gens savent, j'ai un Samsung, j'ai un iPhone, j'ai un machin. Ils, bon, est-ce que c'est Android
la version
ou pas,
Android
ou même avec un Apple, t'as un iPhone, est-ce que quel OS ça fait tourner? T'en sais rien, ouais, c'est un iPhone.
Mais même, ils savent même pas ce que c'est que iOS, quoi.
Oui, oui, non, mais c'est sûr.
Et c'est là où Apple a ouvert la marche, Samsung a suivi, et Google est en train de le faire avec les Pixels et va probablement arriver avec d'autres hardware. Pour moi, la fusion hardware-software, elle est faite maintenant. C'est plus des choses séparées. Dans l'expérience finale d'un utilisateur, pour lui, il a un outil en main qui lui permet de faire certaines choses. Et c'est tout ce qui lui importe.
Ouais. Bon, bah écoutez, merci pour cette discussion sur cette réorganisation de Microsoft qui finalement pour moi est quand même importante parce que l'OS est la fondation de ces de nombre de ces sociétés, mais c'est vrai que du coup, c'est peut-être la consolidation, la confirmation d'une direction qu'ils avaient déjà prise depuis un bon moment. Parlons un petit peu de cet événement Apple, qui est un petit événement Apple, mais qui a quand même quelques choses intéressantes à analyser. Ils voulaient parler d'éducation. C'était à Chicago, je crois, qu'ils ont fait cet event. Mmh. Déjà, premier indice sur le fait que c'était pas un gros truc non plus. Ils l'ont pas streamé en live. La vidéo était disponible ensuite, mais pour moi, c'était déjà un moyen de dire, oh là, calmez-vous, on va pas tous faire les commentaires en live, les live tweets, les live blogs, machin. C'était genre du calme, on fait un petit truc. Et il y a tout un tas d'éléments dont on peut parler et d'annonces sur l'éducation spécifiquement. Ils avaient déjà fait un événement éducation il y a quelques années de ça. C'était en 2012, je crois, peut-être que je me trompe, ou 2013 ou 2014, dans ces eaux-là. Mais la chose qui est notable pour la plus grande partie des utilisateurs, c'est ce nouvel iPad, qui est un iPad de format classique, 9,7 pouces, qui est relativement bon marché. On est autour de entre 300 et 350 euros. Je pense que en France, on est plutôt autour de 350, peut-être même un petit peu plus quand on compte la TVA. Et surtout, bon, c'est un iPad moderne avec un processeur A10 qui est l'ancienne génération mais qui reste très performante.
Ah oui.
Et surtout, cette compatibilité avec le Apple Pencil. Ils ont annoncé en plus de ça toute une suite de logiciels qui sont prévus pour l'éducation. Et forcément, ça pose la question de, d'une part, les iPads, est-ce qu'ils sont intéressants dans ce contexte? D'autre part, est-ce que cet iPad est intéressant tout court, même si on n'a rien à faire de l'éducation? Et enfin, la question des Chromebooks, évidemment, et de la concurrence féroce, ou même de la domination féroce qu'ils ont sur le marché de l'éducation. Donc, première chose d'abord...
Ouais, le tarif, hein, 359 pour le 32Go.
Voilà, donc 359 €, c'est un iPad relativement bon marché pour un iPad. Et première question donc, est-ce que cet iPad est un bon iPad et est-ce qu'il fonctionne bien avec le Pencil? Visiblement, d'après tous les tests qu'on a vus, oui, c'est un très bon iPad pour un bon prix et avec le Pencil qui, bien sûr, coûte 100 € de plus, hein, si vous le voulez. Mais c'est la première fois qu'on a un appareil en dessous des 500 € ou des 400 € qui peut utiliser ce Pencil du côté de chez Apple. Et on sait que Jérôme, par exemple, a un grand amour pour le Pencil avec son iPad Pro. Moi, je l'utilise un petit peu moins, mais je l'ai quand même également. Bon, pour les gens qui en ont l'utilité, je pense que c'est un bon appareil, quoi. C'est un iPad, on va dire, moins cher que d'habitude ou autour du prix de d'habitude, mais qui en plus fait tourner le Pencil, qui était réservé aux iPad Pro jusqu'à maintenant. Ça allait arriver, on pense, mais bon, c'est maintenant le cas. Bon appareil, mauvais appareil, bon choix, si on veut un iPad.
Oh, c'est un super iPad. Quand même, t'as la pu... Globalement, t'as presque le premier iPad Pro 2 à 3 fois moins cher. Si en plus ton utilisation d'un iPad avec un stylet, on va dire que c'est bureautique, machin, c'est non seulement très bon pour effectivement les écoliers, les étudiants, mais même pour du small business, c'est un appareil largement suffisant. À se demander presque, et là ils ont peut-être intérêt à sortir des nouveautés dans l'iPad Pro bientôt, parce que je trouve pas... Bon, moi, par exemple, le besoin de puissance de l'iPad, je vais l'avoir quand je joue aux jeux vidéo sur mon iPad, mais sur mon utilisation bureautique, faire du dessin et ce genre de choses, jamais ressenti un énorme besoin de puissance. C'est quand même un processeur, c'est le processeur de l'iPhone 7, c'est quand même un bon processeur, la 10. À ce prix-là, moi, je suis plus enthousiaste que toi. Je trouve que c'est un produit presque agressif en termes de prix. Ouais. Apple nous a pas habitués à ce type de tarif. Alors certes, le Pencil en lui-même a très peu baissé. Je crois que c'est $10 de moins que quand il est sorti.
En fait, ils le vendent. Pour préciser, les différences avec les versions Pro, il n'y a pas le Smart Connector, donc de clavier qui peut être connecté directement.
Ça, ils vont l'abandonner.
Voilà. Personne ça, je suis pas sûr, mais bon, c'est vrai qu'il est pas très utilisé. L'écran est de moins bonne qualité également. Il y a pas les 4 haut-parleurs. Il y en a que 1 ou 2, donc pas de stéréo, etc. Mais c'est vraiment des différences accessoires, quoi.
Ouais.
Et effectivement, ils ont un prix spécial pour l'éducation. C'est très américano-centré, les questions d'éducation quand même. Mmh. Ils ont tout un tas de systèmes qui font que il y a la gestion des iPads. Par exemple, les professeurs peuvent regarder ce qui se passe sur chaque iPad des enfants qui les utilisent. Donc, tu as l'écran qui peut s'afficher.
Ça, c'est pas propre à cet iPad-là, parce que ça fonctionne sur les iPads actuels aussi. C'est un soft.
Donc bien sûr, mais je veux dire, ça fait partie de la suite d'applications qu'ils ont annoncées. Il y a aussi un partenariat avec Logitech pour une version du Pencil qui s'appelle le crayon, qui est moins performante, on va dire, et qui surtout ne marche que dans certaines applications et qui n'est achetable que par le site de l'éducation d'Apple. Donc, il sera pas disponible partout non plus.
Mais juste une question sur crayon, parce que moi, j'ai des échos contradictoires. C'est juste un stylet à l'ancienne où il va avoir des fonctionnalités du Pencil.
Alors, en fait, je vais t'expliquer ce qu'il y a et tu vas vite comprendre pourquoi c'est pas si intéressant que ça. Enfin, en tout cas, c'est intéressant dans certains cas.
C'est un stylet, mais sans pression.
En fait, il est actif. Si. Il est actif.
Non, mais il n'y a pas de jugement.
Le palm rejection. C'est un vrai style. Il faut le recharger. Il a le double d'autonomie du Pencil classique, parce que forcément, vu que t'es en cours et tu l'utilises tout le temps, voilà. Il se charge avec un connecteur Lightning classique, le même que tu as sur ton iPhone. C'est pas inversé, donc tu peux le brancher à part. Enfin, bref. L'intérêt, en fait, de ce Pencil, c'est qu'il utilise une nouvelle techno radio propre à l'iPad qui dispose de cette puce-là, que cet iPad-là. Donc, c'est pour ça que ça marche pas sur l'iPad Pro. Mais qui a une particularité. C'est que c'est pas du Bluetooth, donc ça nécessite pas d'appairage, et donc le professeur peut venir sur l'iPad d'un élève et annoter l'iPad.
Ouais. Après, il y a pas de détection des pressions fines comme il y a sur le stylet.
Je crois qu'il y a le niveau de pression. C'est pas autant que le Pencil, mais ça y est. Il y a pas de souci avec ça, même l'inclinaison. Donc.
Ils ont aussi annoncé un clavier qui est un peu durable pour cet iPad, etc. Du côté de chez Logitech.
Clavier. Avec une housse, et il y a un smart connector sur la housse. Donc en fait, tu branches l'iPad dans la housse. En fait, en gros, il y a la partie droite de la housse, c'est la partie qui correspond en fait à l'endroit où est le connecteur
Lightning. Il y a un connecteur en fait. Ouais.
Voilà. Donc on le branche dedans, et ensuite le clavier est aimanté comme chez Surface, ça utilise un smart connector Lightning. Ça ressemble vraiment. Qui connecte le clavier est rétroéclairé, enfin voilà. Classique.
Donc ils ont annoncé tout un tas d'autres choses également au niveau logiciel, des trucs, la gestion des iPads également sur le Mac. Ils ont une version d'iWorks, donc leur suite bureautique, qui est utilisable avec le Pencil, avec le stylet. Et il y a des choses du genre, ils montraient ça, quand on fait une annotation sur un mot spécifique, et ben quand on déplace le texte, quand on change le format, etc., l'annotation et qu'on a fait au stylet, est bien attachée Homo
C'est assez magique, hein, ça. Moi, je l'ai testé. C'est assez marrant comme ils ont implémenté la notation. Je l'ai essayé dans Pages. Bon, c'est encore en bêta, hein, donc tout ne marche pas. Mais moi, qui utilise énormément, voilà, mon iPad, c'était un truc qui manquait et c'est en train de me faire revenir à Pages, quoi. Alors que je l'utilisais pas en traitement de texte jusqu'ici.
Alors du coup, j'en viens à l'autre question qui est plus importante pour l'avenir de l'informatique dans le monde. C'est, on sait que tous ces constructeurs, Google inclus, se battent pour essayer d'avoir le marché de l'éducation, bien sûr, pour rendre service aux enfants et aux écoles, c'est évident, mais aussi pour, je l'ai dit sans rigoler, hein, mais aussi pour donner l'habitude à ces enfants d'utiliser certains produits, qui du coup ils utiliseront peut-être dans l'avenir également. Les Chromebooks ont une domination assez claire sur ce marché dans le aux États-Unis en tout cas. Je sais pas très bien si on les utilise en France. Et les critiques que j'ai vues, c'est que Apple, en fait, c'est bien beau tout ce qu'ils ont annoncé, mais ils comprennent pas vraiment les vrais besoins des vraies écoles. Que tous ces iPads, c'est bien beau, mais c'est un petit peu genre, ça serait parfait dans un monde où tout fonctionnait comme ça marche dans les vidéos Apple. Mais dans la réalité, ça marche pas comme ça. Et du coup, les iPads, c'est beaucoup moins pratique, c'est beaucoup plus cher, malgré ce prix intéressant. Et donc, la plupart des analyses que j'ai lues, disait en gros, Apple comprend pas vraiment l'éducation et ça c'est pas une bonne réponse. Je sais pas si vous avez un avis sur la chose. On n'est pas des spécialistes de l'éducation, mais
ouais, non. Après, est-ce qu'il y a vraiment un truc informatique qui marche bien dans l'éducation, quoi? Les tablettes Microsoft. Enfin, t'as toujours une petite part de bug, d'aléatoire, de problème. Enfin, ça peut arriver.
Non, ça, c'est même pas ça.
C'est même pas ça. C'est quoi?
Non, le problème c'est la formation du corps éducatif. Ça s'arrête juste là. Et pour te dire, autour de moi, j'ai des gens qui sont dans l'éducation nationale et j'ai les deux sons de cloche. C'est-à-dire que j'ai des gens qui ont eu des tablettes Android, mais tu sens que c'est le conseil général qui a dit on va équiper cette école de tablettes Android et ils ont acheté les tablettes 7 pouces les moins chères qu'ils ont pu trouver à 70 balles et qui marchent super mal, sur laquelle tu peux rien installer. Il n'y a aucun soft prévu pour l'éducation. Enfin, ça a été fait par la boîte d'informatique qui a remporté l'appel d'offres, tu vois. Et du coup, c'est une vraie catastrophe. Parce que les tablettes, c'est simple. Les tablettes, c'était même pas, tu vois, des trucs premier prix. Là, il y a un petit moment, mais c'est là, en fait, il y en a...
Tu coupes quand, régulièrement, Cédric, on t'entend pas très bien, je sais pas ce qui se passe, mais on a l'impression que tu détournes la voix de la bouche du micro.
Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, là, oui. Ça a l'air d'aller mieux, vas-y.
Et donc, en fait, ce que je disais, c'est que ces tablettes... Il y en avait une centaine, elles ont toutes fini au même endroit, c'est-à-dire sur un placard dans la remise de l'intendant de l'établissement. Et c'est dramatique, parce que ça, c'est un exemple, mais il en existe plein. Il y a quelques...
Mais les Chromebooks sont quand même suffisamment proches d'une machine qu'on connaît tous, d'un ordinateur classique.
Est-ce que tu as entendu une école en France utiliser des Chromebooks?
Non, non, mais moi je suis pas très proche de cet univers. Mais
Non, mais c'est pas compliqué, hein. Personne n'utilise personne n'utilise de Chromebook ici. Et il existe des classes à iPad, c'est vrai. Et c'est plutôt d'ailleurs pour le collège que pour les niveaux inférieurs. Mais ces écoles iPad sont pas mal parce que chaque élève a son iPad avec ses devoirs et tout ça. Il y a des applis spécifiques pour récupérer le carnet de texte et ce genre de choses, mais c'est toujours pareil. C'est laissé à l'appréciation du professeur. Et donc, par exemple, ils utilisent des applications pour faire des présentations dynamiques des styles PowerPoint, tu vois. Mais tu sens bien que l'application a été choisie par un formateur de l'éducation nationale qui s'est dit « Oh, ben celle-là, elle est pas mal » et qui a pas dû écouter Upload, tu vois, par exemple. Et tu sens que le programme, tu sens que c'est un truc B2B qui est détourné pour un usage scolaire et qui marche pas vraiment dans ce cadre-là. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les logiciels et les solutions, peut-être qu'elles existent, le problème c'est que les gens sont pas accompagnés à ça. Et tant qu'en fait, il y aura pas une vraie politique de formation, et surtout une politique générale, parce que là on est
national,
dans... Voilà, là on est dans l'expérimentation très locale. Des fois même c'est une classe dans un établissement, donc bonjour l'égalité des chances, mais tu sens bien qu'il y a...
C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas à s'emmerder avec l'iPad ont plus de chances de s'en sortir que ceux qui...
C'est
qui,
presque ça.
Dans lesquels on...
C'est presque ça, parce qu'ils galèrent à faire leur truc, parce que ça marche pas toujours.
Mais du coup, Cédric, je vais te donner la parole, Jérôme, dans une seconde, mais du coup, à la limite, ce que tu es en train de dire me pousse plus à penser que Apple, même si aujourd'hui ils ont une implémentation qui est peut-être un petit peu hasardeuse et un succès qui reste limité, la manière dont ils approchent ce problème serait plus appropriée au problème de l'éducation, ce qui se retrouve pas dans la réalité des choses aux États-Unis en tout cas, où ils ont besoin de...
Je connais mal le système scolaire américain, mais je sais que les universités fonctionnent vraiment en autarcie, tu vois. Donc, elles peuvent avoir une vraie politique sur toute leur classe.
Oui, non, on parle plus de
Apple.
On parle plus de collège et de lycée. Hein.
Voilà, on s'associe à Microsoft et du coup, on dit, ben voilà, cette année, tous les étudiants ont des Surface Book, par exemple, ou j'en sais rien, et on utilise les logiciels Microsoft. Enfin, rappelez-vous le scandale quand l'armée a signé avec Microsoft pour équiper en OS rien que les ordinateurs. Je parle même pas de...
les fameux contrats open bar sont toujours difficiles.
Eh bien, en fait, c'est bête, mais si demain on veut que l'éducation passe au 100% numérique, il va falloir, et que tout le monde ait la même égalité, parce qu'on parle d'éducation nationale, il va falloir qu'on signe un contrat avec sans doute une société ou un consortium, j'en sais rien, de constructeurs qui vont fournir une solution complète de A à Z et une formation. Sans ça, ça ne marchera jamais. Ouais. Et aujourd'hui, il y a quelques écoles privées dans lesquelles tu vas mettre tes gamins, tu paieras 15 000 balles à l'année, qui elles fonctionnent comme elles veulent. Elles ont un contrat avec l'éducation nationale, elles sont sous contrat, mais elles peuvent fonctionner comme elles veulent, tant que les programmes sont les mêmes, tant que les enseignements sont les mêmes.
Bon, tant que tu passes le bac ou le...
Voilà,
ils
ont une liberté de moyens. Mmh. Et ces écoles-là privées pourraient se permettre de dire, ben moi je vais voir Apple, et je dis, ben ok.
C'est peut-être, à vrai dire, l'ambition d'Apple, c'est pas d'inonder le marché de l'éducation, c'est comme partout ailleurs, ils se disent, bon, on va jamais prendre plus de 10 ou 15%, à part pour les iPhones où c'était une sorte de truc incroyable, on prend les 10 ou 15% de gens où il y a de l'argent à faire et qui ont de l'argent.
La vraie question, c'est aussi, sommes-nous prêts, et je parle pas que de nous, en gros, à donner à nos enfants des outils d'une multinationale.
C'est toujours le même problème. C'est le même problème qu'avec l'armée. Là, tu citais l'armée.
Exactement.
L'armée, le problème, c'est juste que le jour où les Américains nous déclarent la guerre. Enfin, c'est exagéré, mais tu vois, c'est un peu ça. C'est une question de souveraineté nationale européenne. C'est-à-dire, si tu dépends de tiers comme le GPS, c'est pas pour rien que les mecs lancent des Galiléo en Europe.
C'est ça.
Il faut une solution dont on garde la maîtrise. Et après, là, sur l'armée, enfin, on l'a vu avec la gendarmerie qui a déployé du Linux un peu partout. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est jouable dans l'éducation nationale, même si Linux n'est pas parfait, même si c'est compliqué. Cet écosystème OS plus application, enfin, je veux dire, ces applications qui vont coller au programme de l'éducation nationale, au programme à ce que veulent les enfants, etc., enfin, ce que doivent suivre les enfants, etc., c'est des choses qu'on va pas pouvoir sortir de chez Apple ou ailleurs. C'est des choses qu'on va devoir développer de zéro, faire de zéro. Alors, et pour moi, je pense que Linux, ça peut être une bonne passerelle plutôt que de se reposer sur
après,
un tiers comme Apple ou Microsoft.
Et en plus, Apple a une vision très orientée sur tout le monde doit apprendre à coder, c'est ça le futur, c'est ça demain.
Ça, c'est les professeurs qui décident quel est le programme. Mais excusez-moi, je vous interromps. Je vous interromps pour donner la parole à Jérôme quand même, qui est très sagement en train d'attendre dans son petit coin depuis tout à l'heure.
Je fulmine.
dis-nous ce que tu pensais.
Non, après, si je suis complètement d'accord, à la limite. Mais après, tout le problème, c'est qu'en Europe, on n'a pas développé non plus une offre. Je parle en hardware. Après, je suis sensible au discours autour de Linux et des OS et de l'écosystème d'app, mais en hardware, on n'aurait pas grand-chose à proposer en système européen pour rester indépendant des États-Unis.
En hardware, je suis d'accord, mais si tu pars du principe qu'un Linux, c'est un Linux, tu peux l'installer sur un PC ou une tablette compatible, tu peux effectivement faire un appel d'offres peut-être chez différents constructeurs avec des spécifications très précises, et là acheter en masse des ordinateurs compatibles.
C'est justement là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui l'éducation c'est aussi adapter les enfants au monde de demain. Oui. Je vais peut-être vous froisser, mais nous on est un petit peu vieux et quelque part le form factor ordinateur, clavier, souris, écran, est-ce que c'est l'avenir du hardware? Ce que je veux dire c'est que
on s'en fout.
Si on se dépassionne un petit peu de est-ce que c'est Apple ou pas Apple, l'iPad est un produit d'une stabilité. Je n'ai jamais planté mon iPad. J'ai déjà planté mon iPhone. Je n'ai jamais planté mon iPad. Et Apple a gardé suffisamment, on va dire, de skeuomorphisme l'iPad pour en faire un outil que oui, tu vas utiliser.
C'est pas le même problème.
Ça. Juste pour dire, c'est que dans une école, un iPad va aller beaucoup plus loin qu'une formation aux nouvelles technologies.
L'iPad non, mais l'idée n'est pas... Excuse-moi, je dois t'interrompre. Mais d'une part, les Chromebooks ne plantent pas beaucoup plus, je pense. Et d'autre part, l'idée n'est pas de former les gens à l'informatique, les enfants à l'informatique. L'idée est de fournir des outils modernes informatiques pour l'éducation classique. Ils vont apprendre l'histoire, la biologie, tu vois, sur ces outils.
Mais ne serait-ce que l'écriture. Ok, c'est bien de leur apprendre à taper sur un clavier, mais on sait aussi que d'écrire à la main, c'est une autre manière de réfléchir et qu'il est indispensable de le garder dans une école.
Donc la réponse ultime.
L'avenir de l'écriture, bon, bah, on écrira toujours sur du papier pour certains, mais une partie de l'écriture passera aussi par une écriture électronique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est un outil pédagogique beaucoup plus ouvert qu'un ordinateur avec un clavier.
Mais non, mais là clairement, il n'y a pas de souci sur ça. Mais le problème, c'est que tu ne formeras jamais tant qu'on n'aura pas formé le corps enseignant à utiliser ces moyens-là. Parce que c'est bien d'avoir l'outil. Mmh. Et ça, je critique pas l'outil. C'est sans doute peut-être la meilleure approche. Mais j'en sais rien, en fait. C'est peut-être la meilleure approche, l'iPad. Comme tu dis, c'est simple à utiliser, ça plante pas, voilà. Mais le problème, c'est que il existe des, après, il faut s'en servir. Et il suffit pas juste d'écrire sur
carnet. Et le truc, c'est que, mine de rien, avec un Chromebook, bah, tu sais déjà t'en servir quand tu l'ouvres si t'as déjà ouvert un ordinateur dans ta vie. Avec un iPad, il faut utiliser l'application que Apple a développée pour faire les trucs que tu veux faire exactement comme Apple a décidé que tu voulais les faire. On revient à cette image de l'hôtel et de l'appartement. Apple, il te propose un hôtel déjà parfaitement bien organisé, machin. Et
c'était mais il manque
pas
des choses, hein.
Oui, non, mais c'est ça. Il manque parfois des choses. Parfois, la lampe qu'ils ont mis sur la table de nuit, c'est pas exactement celle que t'aurais voulu. Et tu as pas autant de liberté qu'avec un Chromebook. Et je pense que, en fait, il y a des bonnes solutions, des bons aspects à toutes les solutions et des mauvais aspects à toutes les solutions. Ce que je dirais en conclusion de ce sujet, parce qu'on va avancer, c'est que ce nouvel iPad meilleur marché et qui utilise le pencil ou le crayon ou ce que c'est, finalement, même si on y ajoute un clavier, pourquoi pas, ça commence à devenir un petit peu plus cher qu'un Chromebook, mais en gros, il commence à avoir un intérêt que l'iPad n'avait pas avant, ne serait-ce que par le prix et l'ajout de la possibilité d'utiliser le pencil, et donc à avoir quelques avantages par rapport au Chromebook. Je reste convaincu que au niveau de l'infrastructure, toute bête, les Chromebooks, c'est plus facile à administrer, c'est plus facile à mettre en place, c'est souvent moins cher, et donc les Chromebooks gardent des avantages également. En gardant à l'esprit ce que tu disais, Cédric, c'est que au final, si on veut implémenter ça au niveau national, c'est pas en laissant chaque école faire sa petite expérimentation dans son coin que ça va fonctionner.
Et le problème, c'est que c'est politique et que il y aura toujours quelqu'un pour s'opposer. Et c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Ouais.
Bon. C'est dommage. Bah écoutez, avance. Oui, c'est très compliqué pour tout finalement dans ces domaines-là, mais peut-être encore plus pour l'informatique que pour le reste. Ouais. Et peut-être que peut-être que quand les gens qui ont grandi avec des téléphones mobiles dans les mains, des smartphones, ils accéderont à des postes à responsabilité, peut-être que les choses changeront. Mais d'un autre côté, je me souviens de ce qu'a dit Jérôme, c'est que la plupart des gens, ils s'en foutent de ce que c'est l'OS, le machin.
Exactement.
Le truc. Donc
mais par contre, comme tu dis, les enfants à qui on enseigne des choses aujourd'hui, c'est plus une génération smartphone qu'ordinateur. C'est ça où je dis.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, bah écoutez, avançons. On aurait pu en débattre encore plus longtemps, mais on va continuer dans les autres sujets. Avant ça, quand même, un petit moment pour vous rappeler que cette émission est financée par Patreon. Patreon, c'est un système très simple auquel vous pouvez vous abonner. Enfin, vous vous abonnez tout simplement au Patreon du Rendez-vous Tech et vous choisissez de donner $1, $2, $3, ce que vous voulez, pendant le temps que vous voulez et pour le nombre d'épisodes que vous voulez. Et au bout du mois, eh bien, vous êtes débité pour la somme que vous avez décidée. C'est super simple. Ça finance le Rendez-vous Tech. Ça nous permet de ne pas dépendre ni d'Apple, ni de Microsoft, ni de qui que ce soit d'autre qui ferait soit de la pub, soit nous passerait du matériel, soit quoi que ce soit. On est complètement, complètement indépendant. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi... Il y avait un auditeur qui me disait sur Twitter « Ah, j'ai été débité pour 4 épisodes, j'avais pas compris. » Non, non, n'oubliez surtout pas, comme je l'avais dit dans les mises à jour et dans l'émission déjà, mais n'oubliez pas que vous pouvez vous limiter. Bon, je dis généralement 2 ou 3 épisodes hein, quand même, si vous voulez pas faire tous les épisodes, mais vous pouvez limiter très facilement, c'est inclus dans le système. Donc vous pouvez faire ça, et c'est grâce à vous que l'émission existe, et je voudrais remercier aujourd'hui tout particulièrement Karim R, J Rouillac, Mathieu Jamet, Pierre Dreuil, Philus, Michael Acmi, Cédric, Julien Pierron, Loïc Goyet et William Laurent. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de... je sais pas si c'est toi. Hein. à tous les Cédric. À tous les Cédric, je dis merci.
Dans tes patrons.
Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut choisir ses co-présentateurs, enfin ses co-animateurs préférés? Tu vois,
ah, il faudrait faire une sorte de Starac.
Que pour des émissions où, je sais pas, il y a Jérôme, par exemple.
Par exemple, au hasard.
Par exemple, oui. Non, moi, je crois qu'il faudrait faire le Rendez-vous Tech a du talent et qu'on fasse une sorte de grande fête où chacun vient présenter ses capacités particulières, tu vois, ses connaissances particulières.
La Rendez-vous Tech Academy.
C'est ça, parti. Exactement. Voilà. Ça serait pas mal avec des caméras partout en plus et on verrait comment vous utilisez la technologie au quotidien.
Ouais, mais ça serait mieux de le faire genre Koh-Lanta avec des éliminations, tu vois, pour ajouter un peu de tragédie, tu vois.
Et la survie.
Qui va être éliminé le mois prochain de...
On vous lâche dans une ville inconnue avec 3 objets tech que vous pouvez choisir et on voit qui tient le plus longtemps sans aucune aide. Donc, Jérôme, il va y aller avec son iPad et son pencil. C'est pratique, le pencil, c'est pointu, tu peux te défendre. Cédric, il va sortir son Palm Pre et son Windows Phone.
je suis dans la merde.
Corben, il va faire quoi? Il va avoir une clé USB Linux avec un Raspberry Pi, un truc comme ça.
C'est ça, voilà. Très bien.
Ça sera parfait. Bon, en tout cas, merci à vous tous de nous soutenir. Vous le savez, le lien est dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvtech. Ça nous permet de faire cette émission et de rester indépendants. Merci à vous tous de nous soutenir. On continue. Du coup, bah, naturellement, je me tourne vers Jérôme pour ce sujet suivant. Le nouveau téléphone Huawei, qui est donc le téléphone P20, c'est un téléphone Android, qui surtout a... J'ai bien compris, hein. 3 objectifs au dos. On savait que récemment, il y avait de plus en plus de téléphones avec 2 objectifs, parce que 1 ne suffisait pas, ça permettait de faire des effets de flou, de bokeh, etc. dans les portraits et d'autres choses. Huawei qui présente ce téléphone P20 avec 3 objectifs, je sais même pas si t'as suivi l'annonce, mais comme tu es très intéressé par la photographie et par la photographie sur smartphone en particulier, j'imagine que oui, j'espère que je ne me trompe pas, sinon ça va tomber à plat.
Oui, enfin, sauf que Huawei ne m'a pas invité à sa prête. Non,
tu vas dire que...
J'ai retrouvé le mail où il m'invitait, c'est juste que j'ai pas répondu.
C'est ma faute. D'accord, alors ça va, tu peux rester objectif.
C'est effectivement une approche. De toute façon, c'est une partie de l'avenir photo smartphone.
Non mais à quoi ça sert en fait?
Alors, à quoi ça sert? C'est simplement, tu t'es déjà demandé pourquoi il y avait des gens qui montaient et démontaient des objectifs sur leur appareil quand on a des gros appareils photos. C'est parce que des objectifs vont être très bons pour faire certaines choses et moins bons pour faire d'autres choses. Un objectif qui fait tout. Il va pas tout faire bien. Voilà, ça s'appelle, hein, ça existe, hein, c'est ce qu'on appelle les tristandards ou un truc comme ça. C'est des objectifs qui vont de 12 mm à 120 mm, qui te promettent la lune, qui peuvent faire du portrait, du paysage, tout ce que tu veux. Non, en
bah,
photo,
du coup, c'est vachement bien d'en avoir 3. Ça veut dire encore une possibilité en plus.
Ouais.
Non, je te sens pas convaincu.
Je l'ai pas eu en main. Donc, j'aime pas beaucoup donner des jugements définitifs. J'ai vu des résultats, c'est très impressionnant dans certains domaines, beaucoup moins impressionnant dans d'autres. C'est-à-dire que dans ce genre d'annonce, mais j'ai un peu la même réaction avec le Galaxy S9 et son ouverture qui change, il y a un côté gimmick marketing et il y a un côté réel. C'est-à-dire que d'après ce que j'ai vu, encore une fois, je prends des pincettes. Les résultats que j'ai vus, par exemple pour la basse luminosité, c'est assez magnifique ce qu'ils ont fait. C'est un appareil qui se met un cran au-dessus des autres. Et en qualité photo générale, il est globalement meilleur que tout ce que j'ai vu, même le Pixel 2 dont on dit beaucoup, beaucoup de bien. Maintenant, il y a d'autres photos où il est moins bon. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être pas poussé au maximum ce qu'on peut faire avec ce type d'objectif. Le plus intéressant là-dedans, c'est probablement un vrai zoom optique. Ce que permet les trois objectifs, c'est d'avoir dans ces trois objectifs un objectif, ce qu'on appelle longue focale, qui va te permettre, quand tu vas zoomer, ce que fait tout le monde là en zoomant avec son doigt, d'avoir un vrai zoom optique. Et là, tu vois une vraie différence. Parce que quand vous zoomez sur votre smartphone, tout ce que vous faites, c'est comme si vous donniez un coup de loupe sous Photoshop, quoi. Tout ce que vous faites, c'est grossir les pixels.
Oui, sauf quand on a deux objectifs qui peuvent effectivement faire passer.
Sauf quand on a deux.
Et là, il y en a trois.
Et le troisième, globalement, est ce qu'on appelle une longue focale. Je sais plus l'équivalence en millimètres, mais bon. Une longue focale qui va vous porter loin optiquement. Donc, ça va vraiment vous permettre, je crois, c'est x5, le zoom optique, de zoomer 5 fois sans déperdition dans l'image. Et on sait, moi, je regarde les gens utiliser des smartphones autour d'eux, que les gens adorent zoomer sur leurs photos de smartphone. Donc ça, c'est plutôt pertinent de leur part, Huawei. Donc oui, c'est un... Je dirais pas une révolution, ça va dans le sens, on le sait, on est déjà en train de travailler sur des appareils photo qui auront 16 objectifs comme ça sur le dos, le fameux appareil photo light dont on parle beaucoup dans le monde de la photo. En multipliant les objectifs, tu enlèves cette contrainte d'avoir des objectifs qui se vissent et se dévissent sur ton appareil. Donc et de pouvoir faire tous les types de photos, donc c'est plutôt un pas dans le bon sens.
Ok, bon bah on attendra les premiers tests pour la qualité effective des photos, mais moi je pensais que t'allais me dire « ouais, c'est gadget, ça sert à rien », mais non, finalement
autant,
peut-être pas.
Je vais être un peu méchant avec Samsung, mais leur système d'ouverture variable sur le S9, c'est un peu gadget, je le dis, même s'il prend d'excellentes photos, hein, mais il n'avait pas besoin de ça en fait.
Donc là,
c'est gadget. Non, chez Huawei quand même, il y a... C'est juste qu'ils auraient peut-être pu pousser le truc un peu plus loin, mais voilà.
En mettre 4 5,
non, mais
12,
exploiter de manière plus fine. Moi, ce que j'aimerais, c'est que un constructeur ait le courage de, change l'appareil photo de façade. Photo de façade sont à la traîne.
Tu sais ce que c'est le courage, Jérôme, dans l'informatique? C'est d'enlever les ports jack sur les téléphones. C'est ça le courage.
Et bientôt la prise Lightning. Vous n'avez plus besoin de recharger votre smartphone. C'est vous jetez quand il n'a plus de batterie.
Voilà. Petit clin d'œil, effectivement, à la présentation Apple de l'époque. Amazon et Monoprix s'allient. Alors, on sait que la grande distribution, et en particulier dans l'épicerie, c'est pas forcément les plus grands amis d'Amazon, parce que la perspective de Amazon Fresh, Amazon Now, Amazon qui vous livre des produits d'épicerie, et ben, ça, on pensait que ça allait arriver à un moment. Il se trouve que coup de théâtre, bon, aux États-Unis, on sait qu'ils ont racheté une société qui faisait déjà ça et que donc il y a une synergie qui se met en place à ce niveau. En France, il y a un partenariat avec Monoprix pour des produits Monoprix. Alors c'est vraiment des produits de la marque Monoprix. Vous savez, les trucs Monoprix bio, Monoprix gourmet, etc. Des articles de beauté, etc. Entre parenthèses, Monoprix gourmet, c'est généralement très bon. Moi, de ce que j'ai testé, voilà, petit tip comme ça.
Placement produit, Patrick.
Ce placement produit n'est pas rémunéré. Il y aura aussi des produits frais et d'autres choses. Et ça sera pour Prime Now, donc qui vous livre en une heure pour une petite somme et en deux heures sinon, à partir de, je crois, 40 euros d'achat. Donc c'est vraiment le début de « on fait ses courses simplement sur Amazon ». On sait que on est tous devenus ici dans l'émission et je pense parmi les auditeurs finalement des adeptes d'Amazon parce que malgré toutes les questions controversiales, c'est quand même tellement pratique à tellement de points de vue que finalement on finit par les utiliser énormément. Amazon et Monoprix qui s'allient, est-ce que c'est pas Amazon qui se prépare à mettre un coup de poignard chez Monoprix? Est-ce que c'est Monoprix qui prépare finalement sa stratégie peut-être web supplémentaire? Ils ont déjà un site bien sûr, mais aller voir ce qui se fait du côté d'Amazon pour être prêt le jour où tel Brutus, ils viendront poignarder tout le monde dans le dos, j'en sais rien. Pour moi, c'est plutôt une bonne manière de faire les choses pour Monoprix, à condition qu'ils y aillent les yeux ouverts et qu'ils sachent que ça risque de pas durer, mais enfin de pas durer, que on peut pas faire confiance à Amazon sur le long terme. Peut-être Corben, qu'est-ce que tu, toi, t'as même pas Amazon là où tu vis dans la campagne, non?
J'ai Amazon, mais ils livrent pas encore tout, notamment sur les courses, ce genre de choses, c'est un peu en mode express, quoi.
Ouais, ça sera en l'occurrence sur certaines agglomérations l'histoire de Monoprix.
Il y a pas de Monoprix ici, enfin je crois pas en tout cas. Donc,
mais finalement, façon... c'est Monoprix qui bénéficie de l'infrastructure, je pense, d'Amazon. Mais oui, donc du coup, enfin je sais pas au niveau même stratégique, est-ce que ça c'est cohérent de s'allier à Amazon alors qu'ils sont en train de bouffer tout le monde, et comme je le disais, on se doute bien qu'ils vont finir par essayer de bouffer, enfin pas de bouffer Monoprix, mais à vrai dire, je viens d'y penser. Est-ce que c'est pas une première étape avant de racheter Monoprix, par exemple? Je sais pas.
Mais... Bon, je sais pas s'ils rachèteront, mais en tout cas, je vois pas l'intérêt d'Amazon de s'associer avec Monoprix. Monoprix, je vois l'intérêt, par contre, parce que ça leur permet d'écouler plus de marchandises, etc. Après, je sais que sur.
Bah, l'intérêt, cas, c'est de Paris... pas avoir à créer de nulle part toute une, enfin les entrepôts de stockage, la fabrication, ouais, à qui ils vont acheter les produits, à qui
ils le font déjà plus ou moins, ça quand même.
Sur... Ils le font aussi,
ils ont moins de produits, mais après je pense que c'est surtout une question de marque peut-être pour Amazon, parce que c'est vrai que Monoprix, en tout cas à Paris, c'est un peu le petit magasin de quartier un peu hype. Enfin, je pense,
on va dire, c'est un petit peu bourgeois, quoi. C'est
voilà,
effectivement.
C'est un peu bourgeois, un peu cher.
Moi, pour avoir travaillé sur le sujet, Monoprix, c'est l'urbain célibataire, trentenaire sans enfants, qui a de l'argent et oui, trentenaire, ouais.
Bah oui, c'est pour ça que je dis ça.
Ouais, c'est gentil.
Je pense que l'intérêt d'Amazon, c'est d'utiliser un peu cette image-là pour peut-être convertir ceux qui sont pas encore passés à Amazon. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, Amazon Prime, enfin la livraison express, quoi.
Prime.
Mais après, voilà, après, je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais bon, je pense que Monoprix va se faire bouffer là-dedans.
Je pense pas que la marque, parce que attention, Amazon n'a aucune crédibilité en France pour la livraison des courses, la fraîcheur des produits, etc. Donc, très intéressant pour Monoprix. C'est bien pour ça qu'ils ont racheté Whole Foods aux États-Unis. C'est que le nom Amazon, on ne l'associe pas, et ça n'est pas encore dans les réflexes des gens de faire les courses chez Amazon, et d'acheter une marque qui a déjà pignon sur rue sur une clientèle urbaine qui est déjà habituée à la livraison, c'est hyper pertinent pour Amazon et pour Monoprix. Moi, ce qui me fait crever de rire, c'est que je viens d'une génération où on pleurait sur les commerçants de quartier parce que les hypermarchés tuaient le commerce de quartier. Et là, on pleure parce que les hypermarchés vont disparaître, tués par Amazon. Et est-ce qu'on va vraiment pleurer sur la mort des hypermarchés? Alors, ils vont pas mourir non plus du jour au lendemain. Je crois que, de toute façon, c'est pas parce que de nouveaux mode de consommation arrive que ça chasse les anciens. Je veux dire, en ville, quand vous habitez vraiment en ville, et je peux vous dire, quand t'es parisien, t'as pas de voiture, t'as pas droit à l'hypermarché. T'es obligé d'acheter dans des petits supermarchés où les prix sont plutôt chers. Tu n'as pas accès, avec ta voiture, ton grand coffre. Donc, la livraison pour les Parisiens, par exemple, c'est devenu une bouffée de liberté énorme. Parce que quand tu t'es trimballé, t'es 10 sachets à bout de bras avec t'as failli perdre un doigt tellement il est coupé par les sacs plastiques. C'est une bénédiction que de te faire livrer tes packs d'eau au cinquième étage sans ascenseur, quoi.
Et c'est vrai que la stratégie pour Amazon de s'infiltrer dans ce domaine de la livraison avec une marque qui est un petit peu, qui a une bonne image comme Monoprix et qui est, clairement une marque d'épicerie. Oui, mais au-delà de ça, effectivement, on va faire ses courses chez Monoprix. Effectivement, ça peut habituer les gens à faire leurs courses de ce type chez Amazon, et puis, ou au bout de 2, 3, 4, 5 ans, eh ben, ils pourront passer à autre chose, racheter Monoprix, pas racheter Monoprix, dénoncer le contrat, Dieu sait quoi. Et, ben, bon, donc, mais pour les deux, je pense, et du même coup, Monoprix peut atteindre des gens qu'ils n'atteignaient pas forcément par leur propre site web, et puis à terme, pourquoi pas, en profitant de la connaissance qu'ils auront acquise de la manière dont travaille Amazon, peut-être se développer eux aussi d'une autre manière. C'est possible ben, également.
Là où les marques de retail alimentaire ont à apprendre d'Amazon, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 10-15 ans, il y avait les premiers services de livraison par les supermarchés eux-mêmes de commandes sur Internet. C'était une catastrophe. On recevait la moitié des produits. Enfin, ils savaient pas faire la livraison.
Toute la logistique, voilà, ils l'ont développée de manière tellement impressionnante chez Amazon.
Amazon, c'est à lui. Enfin, on peut critiquer beaucoup Amazon sur tout un tas de choses, mais en termes de livraison, quand t'as un produit qui marche pas, alors quand il y a un problème, ça vient du livreur et pas d'Amazon. Et quand t'as un problème avec un produit, le système de renvoi, enfin, il y a un service après-vente qui est vraiment impeccable, quoi. Voilà, il y a beaucoup à apprendre d'eux, effectivement.
Bon, avançons un petit peu. On parlait de stratégie nationale et on peut parler d'intelligence artificielle du coup, puisque le pétillant Cédric Villani a rendu son rapport sur l'intelligence artificielle, et l'État a donc décidé ou annoncé certaines décisions sur l'intelligence artificielle au niveau national et au niveau européen. Disons qu'il y a une impulsion nationale qui est très claire. Je ne sais pas qui clique de sa souris, mais ça s'entend énormément. Et évidemment, c'est Corben. Ça ne m'étonne pas.
Désolé.
Et donc, en gros, il va y avoir... Alors, c'est assez complexe. On aurait pu en faire toute une émission sur cette histoire d'intelligence artificielle, mais il y a plusieurs recommandations qui sont suivies, recommandations de Cédric Villani, qui, on le rappelle, est un médaillé de la médaille Cefield, c'est ça, qui est l'équivalent du prix Nobel, mais pour les mathématiques. Donc, c'est quelqu'un qui connaît un petit peu le domaine de la recherche et qui a travaillé avec des spécialistes sur le sujet, bien sûr, pour faire son rapport. La stratégie que choisit du coup le gouvernement, c'est d'ouvrir énormément de données, de mettre en commun des données publiques et privées, donc faire de l'open data de manière assez massive, d'encourager le développement avec de l'intelligence artificielle avec des investissements de l'État. Il y avait 1,5 milliard d'euros qui étaient prévus sur 10 ans par la précédente administration, qui sera ramené à, je crois que c'est la fin du, jusqu'à la fin du quinquennat, tout l'argent sera investi. Et donc, il y a une stratégie de développement d'intelligence artificielle qui vise à créer des entreprises en France avec ce genre de financement, avec une réflexion et des stratégies sur l'éthique de l'utilisation de ces données. Il y a également une question sur l'inclusivité et l'écologie qui est posée par le rapport de Villani. Et il y a également une intention qu'on va voir si elle sera possible à faire respecter. Là, il y a des questions légitimes qui se posent, mais sur l'ouverture des algorithmes qui sont créés à partir de ces données. C'est-à-dire que quand il y a du financement qui est donné par l'État, les algorithmes résultants, que ce soit par des sociétés ou des collectivités, devront être ouverts et simplement consultables. Quand ce sont simplement les données publiques ou les données ouvertes qui sont réunies, qui sont utilisées, là, bien sûr, on n'a pas d'obligation d'ouvrir les algorithmes. C'est fortement encouragé, on va dire. Bon, après, il y a des sociétés qui vont forcément pas vouloir livrer ce type de propriété intellectuelle, finalement. Mais il y a beaucoup de critiques légitimes qu'on peut faire sur toutes ces stratégies. moi, mon impression, c'est qu'on est encore une fois dans une configuration où, oui, il y aurait d'autres moyens de faire les choses qui auraient également des avantages et des inconvénients. Ce que je retiens, c'est qu'il y a une vraie impulsion vers l'intelligence artificielle, vers le développement de l'industrie de l'intelligence artificielle dans notre pays, et qu'on a, au niveau de la recherche fondamentale, un vivier absolument magistral de chercheurs qui savent très bien gérer ce genre de choses, qui sont d'ailleurs complètement expatriés chez les grands de l'informatique aux États-Unis, et c'est dommage qu'on les perde de cette manière. Et vu l'importance de l'intelligence artificielle, qui sera l'une des énormes industries aujourd'hui et qui va grandir encore plus. Je pense que même si la solution n'est pas parfaite, c'est quand même hyper important qu'on y aille de manière hyper volontaire et limite en forçant un petit peu la chose. Tu faisais remarquer, Jérôme, qu'on n'a pas de grands industriels fabricants d'informatique ou même de plateformes dans nos pays. On en a, mais relativement peu. On a quelques exemples qu'on pourrait donner, mais c'est assez rare. Là, je crois que c'est le moment de s'engouffrer dans la brèche de l'intelligence artificielle. Bon, avec les critiques qu'on pourrait faire, peut-être même avec des critiques d'orientation politique, ce que je peux comprendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, rapidement, avant qu'on avance de cette orientation, de ces annonces ?
Écoute, moi je pense que c'est plutôt bien. Après, nous on est quand même spécialiste pour louper le coche sur à peu près tout ce qui se passe en termes de nouveautés tech et compagnie. Donc là, je sais pas si on a loupé le coche. Je pense qu'on a déjà un peu de retard.
On a un peu de retard, mais pour moi, il est pas trop tard.
Non, voilà, il est pas trop tard. Donc ouais, c'est une bonne idée. Après, c'est comme tout, hein, ça va s'alourdir. J'ai l'impression que ça va être encore une usine à gaz et qu'à la fin, ça va faire un vieux bruit de prout et ça va s'arrêter en cours de route. Mais ça, c'est moi, parce que je suis un peu pessimiste sur ces choses-là.
Là où je suis enthousiaste, c'est l'ouverture des données, parce qu'il y a énormément de données, bien sûr, proprement, correctement anonymisées, hein, c'est l'intention en tout cas, mais c'est l'ouverture des données qui sera disponible, c'est un petit peu de l'open source pour l'intelligence artificielle. Et ça crée un dynamisme de développement, et l'univers de l'informatique a toujours... c'est toujours développé sur ces bases-là, quoi. La disponibilité des données dans l'intelligence artificielle est primordiale. Et comme on n'a pas de grands réseaux sociaux, nous, nationaux, et que tous les Google, les Facebook, les Amazon développent leur intelligence artificielle parce qu'ils ont des données, si on n'a pas les données, on ne pourra rien faire. Donc, l'idée de mettre en commun toutes les données qu'on a et de les rendre open source, ça peut initier quelque chose, quoi.
Ouais, on risque d'être devant une contradiction, et encore une fois, c'est très très bien en Europe, on protège beaucoup plus les données, on le voit avec les décisions qui sont
prises. C'est pour ça que je disais proprement anonymisé, ouais. Correctement.
Mais on le sait aussi, si on ramène le débat à Siri versus Google, que, entre guillemets, l'intelligence artificielle chez Google sera beaucoup plus facile à développer parce que un accès aux données des gens, je parle des assistants personnels et domestiques, seront forcément plus intelligents que Siri, qui n'a pas autant accès aux données personnelles des gens. Donc, est-ce qu'on risque pas d'avoir un monde où en Europe, on aura effectivement des données personnelles bien protégées, mais une intelligence artificielle, du coup, un petit peu coconne, par rapport
à... Parce que là, tu prends un cas très spécifique l'utilisateur final, tout ça. Mais moi, j'ai vu des domaines là où c'est stratégique. C'est même sur la défense. En fait, c'est très, très bête, mais on le voit avec tout ce qui s'est passé avec la Russie, avec même le scandale Facebook récemment et tout ça. En fait, les données et l'ingérence de certains États peuvent être capitaux pour faire élire tel ou tel abruti à la tête d'un pays. Mais même ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on commence à voir des virus informatiques qui sont finalement des intelligences et qui essaient de soit récupérer de la donnée, soit... Et on voit en face des espèces de contre-IA qui sont là pour contrer ça. En fait, on passe, toi qui es dans la sécurité informatique, en plus Manu, c'est un vrai défi de se dire que demain, un État peut très bien utiliser un programme informatique malveillant et intelligent, capable de s'adapter d'évoluer pour atteindre son but, et de voir qu'en face, on va avoir la même chose pour détecter. En gros, on est passé de l'espionnage où l'humain était au cœur de l'information, l'intelligence, et on se retrouve dans un monde où finalement, les espions ne sont plus physiques, mais deviennent totalement numériques. Et en fait, si on n'a pas les outils pour se protéger de ça, ou même ne serait-ce que les comprendre, on sera toujours les dindons de la farce, en fait.
Et c'est ça, en fait, qui m'inquiète, finalement, parce que on peut, et je prends beaucoup de pincettes, vous l'aurez compris, parce que déjà, quand j'ai tweeté la chose, Macron a fait une interview avec Wired, qui est un magazine américain très respecté sur les questions informatiques. J'ai déjà eu des retours de gens qui me disent « Ah, mais non, on fait pas les choses bien, regarde, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça, là, on va se faire bouffer parce que les données seront dispo pour les grandes sociétés aussi, et du coup, ils vont nous bouffer, machin. » Ben oui, forcément, mais c'est pour ça que je dis « Il n'y a pas une solution parfaite, et peut-être que d'autres personnes diraient « Ah oui, mais on pourrait plutôt le faire comme ci ou plutôt le faire comme
ça. »
Mais
oui. Il y aurait, mais la vraie question, c'est quoi l'approche? C'est quoi l'approche, en fait? Est-ce qu'on veut en faire une industrie et du coup aider des start-up produire de la valeur
les start-up
et du business,
nation, comme disait Corben.
Est-ce qu'on est là pour produire est-ce qu'on est là pour produire de l'argent, donner un emploi à tout le monde grâce à cette avance qu'on aurait sur l'intelligence artificielle ou les investissements qu'on y fait dedans, ou est-ce que c'est une question stratégique de défense, ou est-ce que on est juste au niveau de vouloir créer un énième assistant national qui servirait sur le site impots.gouv.fr pour t'aider à remplir ta fiche d'impôt?
C'est la bonne question.
C'est ça. En fait, on parle d'IA, mais c'est tellement vaste le sujet.
Je crois que justement, l'idée, c'est que on ouvre la porte et puis on voit ce qui se passe. C'est un petit ce qui a toujours la manière dont a fonctionné l'informatique et la recherche. C'est comme ça que fonctionne la recherche. Et le problème qu'on a finalement en France et en Europe, c'est que personne n'est assez gros, on n'a pas assez de données, parce que comme je le disais, l'intelligence artificielle se base sur les données, c'est le carburant de l'intelligence artificielle, et on n'en a juste pas assez. Et donc, les autres, enfin les grands GAFAM, ils en ont des tonnes et des tonnes. Et donc, il faut à un moment que on dispose de ça si on veut avoir l'espoir de faire quelque chose. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, mais on verra. Et ensuite, les modalités, on peut les discuter. Mais bon, comme je disais, on aurait pu faire un épisode entier là-dessus. On va avancer pour conclure. Netflix et tous les fournisseurs de contenu numérique ont maintenant l'obligation de garder les contenus accessibles dans quel que soit le pays européen où vous êtes, c'est-à-dire que si vous êtes abonné Netflix France, eh ben vous pouvez accéder au contenu Netflix France même si vous êtes au hasard en Finlande.
Ça m'a énervé.
Je sais, c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste des sujets. Dis-nous tout, Corben.
Non, bah écoute, ça part d'une bonne intention de l'Europe. En fait, c'est effectivement, ça permet aux consommateurs de services de streaming. Alors c'est plus visible sur la vidéo que sur l'audio, hein, mais de pouvoir par exemple commencer une série en France et la finir en Finlande. J'entends des perturbations électriques dans la ligne.
Non, c'est quelqu'un qui se penche sur sa chaise, je pense.
D'accord.
Oui, c'est moi, j'ai une vieille chaise qui couine, pardon.
Et donc tout le monde applaudit des deux mains en disant « Ah cool, génial, parce que j'en avais marre d'avoir des séries en finlandais quand je me pointe en Finlande. Mais le problème, c'est que là, jusqu'à présent, ceux qui voulaient regarder leurs séries françaises en Finlande pouvaient passer par un VPN qui se trouvait en France, ou un VPN en Finlande si vous voulez regarder les séries françaises, enfin peu importe, ou les séries finlandaises, peu importe, je m'embrouille. Là maintenant, le problème avec cette nouvelle règle.
Mais ils détectent les VPN Netflix.
Ouais, enfin bon, je pense qu'il y a toujours moyen de débrider, non?
J'ai pas trop. Je veux dire, j'ai pas essayé, bien sûr, mais j'ai entendu que.
J'ai pas trouvé, mais j'ai cherché, mais pardon.
Netflix ou d'autres services, peu importe. Mais là, le problème, c'est que là, maintenant, en fait, votre profil va être associé à votre pays, alors soit votre pays d'origine, ou en tout cas celui que vous avez renseigné à la création de votre compte. Et basta. C'est-à-dire, si vous aimiez les séries finlandaises quand vous allez en Finlande, ou les séries turques quand vous allez en Turquie, c'est terminé. Hein, c'est le catalogue français de partout.
Bah, moi, moi, c'est ce qui me pose problème, c'est que en Finlande, en fait, c'est pas les séries finlandaises, mais l'offre est plus importante sur les séries américaines. Et du coup, moi, j'aimerais bien avoir quand je suis en Finlande, j'aimerais bien avoir le catalogue finlandais.
Le problème, c'est qu'on est condamné parce que le catalogue Netflix en France, c'est le plus pauvre d'Europe, quoi. Et du coup, on est condamné à avoir le catalogue français. Moi, quand je suis allé au pays, enfin, à Amsterdam, j'ai pu regarder des Star Wars, quoi. On est encore à 5 ans de les avoir sur Netflix français. Donc moi, c'est ça qui m'énerve, quoi.
Et la raison de tout ça, elle est simple, hein, c'est pas la faute de Netflix. L'Europe, bon bah ils font de la merde, mais bon voilà, c'est l'Europe. Mais la raison de tout ça, c'est juste les ayants droit qui veulent vendre encore et encore les mêmes droits, enfin faire payer en tout cas les mêmes droits à Netflix par pays. En fait, tout est segmenté par pays.
Ouais, et c'est ce que tu disais dans ton article. Tu disais oh mais faudrait juste libérer tout ça, ça serait plus simple, ça serait mieux, machin. Ouais, et donc que tout soit accessible de partout. Et là je dis oui d'accord. Certes, Corbett, effectivement, mais ça serait bien qu'on n'ait plus la fin dans le monde, ça serait bien que, tu vois, c'est un petit peu au même niveau, tu vois.
Ouais, non, c'est pas au même niveau du tout, c'est juste... Non, mais regarde, les mecs, l'Europe, là, va imposer un système va imposer le fait de pouvoir suivre une série en fonction de ta nationalité, enfin, de là où tu t'es abonné, partout en Europe. Pourquoi ils auraient pas imposé aussi? Ça pourrait arriver, c'est juste qu'il n'y a pas de volonté là, mais de dire, voilà, Netflix, vous avez un catalogue, vous le mettez à disposition sur l'Europe en entier, tu vois. Je sais, derrière, il y a des histoires de gros sous, des lobbies...
Non, mais tu dis ça comme si c'était Patrick. Un détail.
Ça serait facile à contourner aussi. Il suffit effectivement les ayants droit de leur dire voilà, pour le package Europe, on vous file autant que vous gagnez quand vous filiez les droits pays par pays. En plus, ça vous coûtera moins cher en négociation parce que vous négociez avec une seule personne. Non, il y a.
Bah écoutez, je vais vous dire un truc. Vous allez, parce que effectivement, c'est qu'une seule personne qui gère tous les droits dans tous les pays d'Europe. Il n'y a pas différentes sociétés, Non. Donc, ça serait très simple. Vous allez gérer ça avec l'UE et Netflix et les ayants droit. Une fois que vous avez réglé ça, vous revenez en France et vous réglez le problème des fenêtres de diffusion. Comme tout a l'air très simple pour vous, ça nous corrigera tous les problèmes d'un coup. Mais ça grave. Sera super bien.
Non, mais je dis pas que c'est pas compliqué comme problème. Mais c'est
frustrant.
C'est pas un problème,
je suis d'accord.
C'est pas un problème technique. C'est juste un problème de pognon, quoi. C'est
ça,
tout.
On est d'accord.
Et je pense que ce que veut dire Corben, nous, Patrick, c'est pas qu'on dit que c'est simple. On se place du point de vue des utilisateurs. Tout le problème, c'est toujours le même. C'est que, c'est très compliqué à ce niveau-là, mais c'est toujours les utilisateurs qui trinquent derrière, quoi.
Sur la règle européenne en elle-même, le vrai problème, il est que justement, bah, par exemple, toi, Patrick, tu vas être privé de tes séries finlandaises quand tu seras en Finlande.
Je sais pas combien de temps ça dure. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu passes sur l'autre catalogue.
Oui, voyage que.
Peut-être, mais en fait, d'un.
Mais pour
d'un
le moment, oui, j'ai vu débarquer sur mon Netflix les trucs français. Je me suis dit, mais parce que là, ça fait quelques mois que je suis en Finlande.
Ouais, mais
bon,
Patrick,
écoutez, c'est là où on va avancer. Je pensais pas que
pas
les débats seraient
aussi.
Patrick, c'est là où tu vas avoir un problème, c'est que selon le texte que j'ai lu ce matin, genre au bout de 2-3 semaines, tu n'auras le droit de regarder Netflix que en payant le Netflix en Finlande. T'auras plus.
Ah, donc
Netflix
ça coupe carrément. Il va falloir que je change mon abonnement, d'accord.
Ou que je prenne les deux.
Ah, on sait ou que je prenne les deux, oui, mais on peut pas l'avoir sur le. Il faudra que j'alterne entre les comptes.
Mais si tu veux, d'un état un peu. Enfin, d'une situation un peu imparfaite, effectivement, la série, elle te suit pas quand tu voyages. Là, on passe d'un état où t'es coupé d'une partie du contenu, quoi. Totalement.
Ouais. Je suis. Oui.
Mais
bon,
alors,
je pense
si, par
que
exemple,
pour la plupart.
T'as synchronisé une série
offline
en France.
Je pense que tu la perds.
Non, mais tu l'as synchronisé, ça la garde
que
quelques jours.
Est-ce que tu as accusé de recel à la douane?
Bah, écoutez, je pensais pas que le débat serait aussi animé sur cette question. J'ose à peine mentionner le fait que.
Non, mais pas, Cédric, la solution est simple. Un gros électro-aimant à toutes les douanes.
Et
tes mémoires sont effacées instantanément dès que tu passes. Voilà.
Bon, j'ose à peine mentionner le fait que visiblement Netflix serait en négociation pour racheter EuropaCorp, ce qui m'emplit de tristesse, la société de Luc Besson. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont vous dire « Oh, EuropaCorp, ça fait que des bouses, des gros blockbusters, machin. » D'une part, oui, peut-être, mais d'autre part, c'est quand même le seul gros studio qu'on a en Europe, le seul gros studio de ciné, et ça m'embête bien, pour rester poli, s'il passe sous l'escarcelle d'une société américaine, parce que qu'on aime ou pas EuropaCorp, bah c'est un gros studio et on a plein de petits producteurs et on a plein de producteurs de films d'auteur en Europe et des gros studios. Donc voilà, c'est pas que on a que des gros studios, ça serait une autre question si c'était que ça, mais du coup bon bref, voilà. Je vais passer directement au dernier sujet parce qu'on a été un petit peu long du coup. C'est
on pourrait dire que en Europe nous baissons notre froc quoi.
Nous baissons notre froc.
Désolé, elle vient de loin, celle-là.
Il y a un jeu de mots, mais que je comprends pas, en fait.
C'est pourri.
Mais je comprends pas le jeu de mots, donc je reste perplexe.
C'est pas grave, Patrick. D'accord. Tu t'écouteras le replay. Et tu
d'accord, ok. On fera ça. Dernier sujet que je voulais vous évoquer quand même. De temps en temps, on évoque des sujets de jeux vidéo dans le rendez-vous tech quand c'est des gros phénomènes. Et aujourd'hui, on a depuis quelques semaines le jeu Fortnite qui est en train de devenir le jeu de l'année. C'est un jeu du type Battle Royale, c'est-à-dire que on a 100 joueurs qui sont lâchés sur une île. Et il faut qu'il s'entretue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et si on est le dernier, eh ben on a gagné. Et c'est un jeu qui copie, on va dire, le style d'un autre jeu qui avait énormément de succès l'année dernière, qui était PlayerUnknown's Battleground. Peu importe, l'important à retenir, c'est Fortnite. Et Fortnite est disponible sur toutes les plateformes désormais, à part Android, mais carrément sur les PC, les consoles et iOS désormais. Et c'est hyper impressionnant parce que c'est l'un de ces jeux qui est accessible, sympa à jouer, graphisme cartoon, tout le monde est en train d'y jouer. Moi, j'avoue que c'est pas vraiment mon truc, mais je suis en train de voir ce phénomène grossir depuis des mois à un niveau où aujourd'hui, eh ben, on a des gens entre guillemets normaux qui commencent à parler de Fortnite. Moi, j'ai des gens dans la rue. Bon, bah, c'est pas des gens dans la rue qui m'arrêtent pour me parler de Fortnite, mais genre, je sais pas, mon kiné qui m'a dit ah t'as entendu parler de Fortnite, ça a l'air sympa, c'est bien, c'est quoi machin. Et c'est très très rare que ça arrive, ce genre de choses.
Mais en fait, ce qui est fou avec ce jeu, c'est que PUBG est sorti bien avant, donc PlayerUnknown's Battleground est sorti avant. Fortnite, à la base, c'était un jeu qui n'était pas du tout Battle Royale. Hein. Et ils ont sorti un mode Battle Royale parce que le jeu était un peu en train de, bah, pas de mourir, mais en gros, il a souffert de l'ombre de PUBG quand il est sorti. Et honnêtement, il y avait quasiment personne qui streamait du Fortnite sur Twitch, par exemple. C'est un assez bon... ça te permet de voir un petit peu le succès des jeux Twitch parce que tu vois les jeux les plus streamés. Et ils ont sorti leur mode Battle Royale. Il y a une petite hype qui est retombée. Et là, tu ne sais pas pourquoi. Très honnêtement, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. Non, je pense qu'ils ont mis aussi un paquet sur le fait que les applis sortent sur mobile. Mais PUBG aussi l'a sorti. Mais
non, mais la différence, je vais te dire. La différence, c'est que PUBG, il y a deux choses. D'une part, PlayerUnknown's Battleground, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, PUBG. Il est payant. Et oui, les graphismes sont assez
réalistes.
Voilà. Et c'est un petit peu violent. Alors que Fortnite, d'une part, c'est un jeu qui est beaucoup plus cartoon, beaucoup plus sympa. Et il est gratuit. Et il est sorti sur PC, console sur Xbox One et sur PlayStation. Et du coup, il y a énormément de Jones qui se sont mis à y jouer.
PUBG sur Xbox aussi. Hein.
Et oui, mais payant. Et franchement, il tournait pas très bien sur Xbox. Et on sait que la Xbox, c'est moins vendu que la PlayStation.
Non, mais finalement, ils ont appliqué la stratégie de League of Legends au Battle Royale, quoi. Et ça marche.
Et ça marche super, super bien.
D'un point de vue, parce que comme tu dis, il y a un phénomène Twitch, YouTube, de streaming de ce jeu. C'est un jeu qui est fun à regarder. L'action est hyper lisible. C'est un peu comme Overwatch. Et il y a ce côté, effectivement, il y a pas de sang, il y a pas, il y a une violence compétitive, on va dire, mais il y a pas de violence en elle-même, quoi. Donc il a rassemblé quand même tous les ingrédients du succès et il s'est développé une vitesse incroyable sur toutes les plateformes. Donc un noyau de jeu assez simple, et puis les règles elles sont ça a le mérite d'être
tu sais
super
tout
simple.
De suite, ouais, tu comprends tout de suite,
tu débarques, tu dois survivre, et si tu meurs t'as perdu, point.
Ça enfin, c'est voilà. Ça c'est la caractéristique du type de jeu, donc de ce type de jeu en battleground ou en battle royale, en manière dont on le décrit peut varier, mais et en plus si on perd on se relance dans une autre partie tout de suite, et on a toujours le plaisir d'arriver quelque part. Encore une fois, moi c'est pas vraiment mon truc ce jeu, mais il faut avouer qu'il a énormément de qualité. Donc je voulais juste l'évoquer rapidement. Si vous voulez plus de discussions sur les jeux vidéo, vous pouvez aller écouter le rendez-vous jeu, et on parle bien sûr régulièrement de Fortnite et du style Battle Royale qui est en train d'envahir le monde. Et ça nous amène donc à la conclusion de cet épisode qui du coup a été un petit peu plus long que prévu, mais c'est toujours un plaisir de partager mon temps avec vous, mes chers camarades ex-applaudiens. On va proposer aux auditeurs de vous retrouver ailleurs s'ils veulent encore plus vous écouter, et on va commencer par Jérôme. Où peut-on te retrouver sur Internet ?
Eh bien, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech et également sur la chaîne YouTube Nowtech Live, où je fais une émission tous les matins de nouvelles tech, enfin une revue de presse de la technologie. Et puis sur la chaîne principale, des tests, des tutos, des choses sur la photo, sur la tech, etc.
Magnifique. Scorben.
Alors ouais, moi j'en profite. Alors moi, vous pouvez me trouver sur Corben un peu partout en cherchant via votre moteur de recherche préféré. Mais là, j'ai lancé avec un copain, donc le mec qui fait Dans ton chat, que vous connaissez peut-être là depuis, on va dire 3 semaines, une petite émission sur YouTube en live qu'on fait le jeudi midi. Alors c'est pas toujours le jeudi, c'est pas toujours le midi, ça dépend un peu. On annonce ça sur Twitter un peu au dernier moment parce que ça dépend de nos emplois du temps respectifs et voilà. Mais en théorie c'est le jeudi midi. De toute façon il y a un replay, il y a tout ça, hein, peu importe. Et ça s'appelle Webosaur. Donc si vous cherchez sur YouTube Webosaur, vous pouvez vous abonner et puis vous aurez la joie de voir ma tête parce que là c'est filmé. Et puis en fait le principe est assez simple, hein. On est deux vieux cons et on discute un peu de ce qui se passe en termes d'usage, de nouveaux usages, et on compare ça un peu avec ce qu'on a connu au début d'Internet et de ce qu'on connaît en fait, tout simplement. Et voilà, on discute, des fois on a des invités, on a des questions des gens dans le chat, et puis voilà, c'est sympa.
C'est quoi
voilà.
La chaîne YouTube
C'est Webosaur.
Webosaur, ouais, tout ouais, simplement, ouais. Super. Très bien. Eh ben, écoute, j'avais même pas vu ça passer. Je suis trop occupé en ce moment.
Mais j'en ai pas trop parlé encore. Mais bon, comme j'ai un peu de temps, maintenant qu'on a arrêté Upload, écoute, je lui ai dit OK, il est venu avec l'idée. J'ai dit OK, allez, c'est parti.
Super. En fait. Webosaur, donc. Cédric, je sais que tu as un petit peu de temps pour tes activités en ligne et de live également.
Ouais, en fait, Geeking est mort.
Geeking est mort, vive Geeking.
C'est ça. Donc, Geeking, c'est terminé et on a lancé un nouveau projet de web TV carrément qui s'appelle Studio Renegade.
J'ai rien suivi, moi. J'ai vu qu'il y avait des trucs, mais je pensais que tu l'avais donné à quelqu'un, moi.
Oui,
quelqu'un.
Qui finalement m'a dit au dernier moment non, je veux pas. Donc, alors qu'on avait transféré les comptes et tout ça, mais bon, bref. C'est une histoire administrative qui ne nous regarde pas. D'accord. Et donc, du coup, la fin du contrat était au 1er avril. Et on s'est dit, plutôt que de jeter à la poubelle tout ce qu'on a fait, on va monter autre chose. Et donc, notre stratégie est d'être sur le live. Donc, on est sur Twitch et on va lancer aussi sans doute un petit peu de YouTube live pour certaines émissions. Mais on est sur Twitch. On a des émissions qu'on faisait toujours, donc Beats et tout ça qui restent. Sauf qu'elles sont un petit peu adaptées. On a changé l'horaire et puis voilà. Et on a recruté des nouvelles personnes. Et on a pas mal de streams de jeux aussi. Et nous, on a quitté Patreon pour aller sur Tipeee. Donc on rejoint le côté Tipeee de la force avec Jérôme.
Et pourquoi? Pourquoi il y a raison à ça? Moi ça m'intéresse. Juste si on a
euros, dollars.
Voilà, voilà, par exemple.
Administrative, on va dire.
Et, ouais, administrative aussi, c'est beaucoup
plus
simple.
Pour les gens qui n'ont pas besoin de payer de TVA, c'est plus pratique. Ouais.
Voilà, en tant qu'association, c'est beaucoup plus pratique. Donc du coup, on a fait ce switch-là. Et puis, parmi les nouveautés, ou du moins les choses que je vais faire, tous les jeudis midi, Manu. Non, mais ça risque aussi peut-être de bouger. Mais pour le moment, c'est le jeudi midi parce que c'est le seul moment que j'ai vraiment de libre. J'anime Things, qui est donc mon émission sur l'internet des objets et la maison connectée, mais aussi la santé, enfin tous les objets connectés, qui dure 2 heures. Je mange avec vous entre midi et 14 heures. On fait une petite première partie de news et la deuxième. On répond à la problématique de quelqu'un dans la chatroom en essayant de lui trouver une solution en direct. Toute la communauté est sur place et on essaie de le dépanner ou de le conseiller sur des achats, par exemple. S'il veut s'équiper, faire une installation, on l'aide à faire tout ça en direct. Donc, c'est tous les jeudis midi à partir de cette semaine.
Magnifique, c'est le bonheur de la communauté internet.
Bon, j'écouterai pas par contre, désolé.
Non, mais toi, t'es pas assez jeune pour aller sur Twitch en fait, Corben. C'est pour ça, t'inquiète
c'est
pas.
Ça, c'est ça.
T'en préoccupe pas. Bon, et pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook, et vous pouvez suivre l'émission sur FrenchSpin.fr. Vous pouvez venir commenter si on a dit des bêtises, vous pouvez nous corriger ou nous dire que vous êtes d'accord, hein, c'est possible aussi. Vous pouvez aller laisser des commentaires sur iTunes également et des notes, ça peut toujours nous filer un petit coup de main. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, patreon.com/rdvtech, le meilleur moyen de nous soutenir. Si vous pensez que l'émission est sympa, si vous pensez que on vous apporte des connaissances, une petite analyse que vous n'auriez pas eu autrement, ou un résumé de l'actu qui est bien pratique à avoir sous forme audio, eh ben vous pouvez peut-être considérer donner un petit dollar par épisode, par exemple. C'est pas grand-chose, mais ça nous aide beaucoup. Donc, vous pouvez sauter le pas en allant sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et ça prend vraiment 2 minutes. Je vous encourage à y réfléchir.
Et oui. D'ailleurs, j'ai rencontré une de tes fans, Patrick, par hasard, dans une conférence. Donc voilà, donc elle s'appelle Céline et je pense que tu devras la saluer parce qu'elle adore ce que tu fais. Voilà.
Ah oh ben je suis. Donc,
elle m'a couvert d'éloges sur toi et quand j'ai montré, donc je lui ai dit j'avais fait un petit reportage sur toi, donc j'ai montré la vidéo, tu sais,
sur toi. Oui, bien
elle
sûr.
Ah, oh, il est beau gosse en plus.
Mais le problème, c'est qu'il est marié.
Et là, il est dans les couches là.
Très heureux. Dans mon mariage, mais il n'empêche que ça fait toujours plaisir d'avoir des gens que ça soit. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui te trouvent sympa et beau gosse et tout. Moi, je suis preneur. Si vous voulez sur Twitter,
non, mais
notre Patrick.
Il est très beau gosse, très sympa. Il sent un tout petit peu le caca en ce moment.
C'est ça.
Et le vomi. Faut attendre un petit peu là.
Voilà, c'est ça. Peut-être un petit peu moins sexy qu'il y a quelques temps. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Je vous fais à tous et à toutes plein de grosses bises et un grand merci à Céline pour ses compliments que j'apprécie énormément et on vous donne rendez-vous donc dans une semaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao à tous.
Salut tout le monde.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission Non, je perds pas l'habitude. Bon, on va recommencer.